À l'occasion de Rosh Hashanah, le rabbin Koryat répond aux questions de Jean Chekroun et c'est tout de suite.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïque à Strasbourg pour cette nouvelle année qui débutera lundi et puis mardi et qui se terminera mercredi soir. Pour parler de cette nouvelle année avec nous, le rabbin Reuven Koryat, rabbin de la synagogue Rambam et également du Kahal Sepharad de la communauté israélite de Strasbourg. Monsieur le rabbin Koryat, bonjour.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous ?
Baruch Hashem, je me sens mieux. C'est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui n'ont pas minimisé leurs efforts dans les prières, dans les lectures de Tehillim. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu les a entendus et m'a redonné ma santé.
Vous allez bien en ce moment?
Je vais bien, Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Alors on rappelle donc l'événement, c'est lundi soir entre 18h39 et 19h47, la fin de la fête, mercredi soir à 21h41. On le dit souvent avec le grand rabbin, c'est souvent par rapport à l'entrée de la fête dans vos synagogues qu'on définit l'entrée des fêtes et des Shabbatot. Monsieur le rabbin Koryat, avant tout, on parle de Rosh Hashanah comme la nouvelle année juive. Et dans, chez les Français, chez les Chinois, c'est en général une grosse fête. On fait la joie, on met les pétards, on fait les soirées. Et pourtant, chez nous, c'est plutôt, on va dire, solennel et austère.
Voilà, la fête de Rosh Hashanah chez nous, c'est une fête extrêmement solennelle. Elle ouvre, elle débute une nouvelle année. Et la particularité de l'ouverture de cette année réside dans le fait que tout est décidé en ce début. Voilà pourquoi ça a un caractère extrêmement solennel.
Qu'est-ce que ça veut dire, tout ?
Tout est décidé, c'est-à-dire que la disposition avec laquelle nous nous présentons en ce jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va nous accorder, puisque tout se décide au début, va nous accorder tout ce qui sera nécessaire, tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre mission. Je dis bien notre mission, celle d'être les vecteurs, celle d'être ceux qui témoigneront du royaume divin dans ce monde-ci. Si on est digne de cette mission, alors Akadosh Baruch Hu nous accorde le meilleur pour pouvoir le réaliser.
C'est-à-dire que la maladie, la parnassa, les bonheurs, les joies, les déceptions, c'est décidé à Rosh Hashanah.
Effectivement, tout est décidé à Rosh Hashanah. C'est pourquoi il s'appelle un jour de jugement. En fait, on nous juge sur l'année à venir. Ça veut dire quoi, nous juger sur une année à venir? On ne nous juge pas sur l'année passée, sur ce qui s'est passé l'année dernière. Non, on nous juge sur notre disposition nouvelle à entamer cette nouvelle année.
Alors, quand on dit juge, juger qui? Juger combien de temps? C'est-à-dire, la fête dure deux jours.
La fête dure deux
c'est
jours.
C'est déjà un événement, puisque même en Israël, ça dure deux jours.
Effectivement.
Quand on dit juger, ils jugent uniquement les hommes, uniquement le peuple juif, ou tous les êtres vivants. Comment ça se définit?
Alors, c'est rapporté dans les textes qu'en ce jour, Dieu, Akadosh Baruch Hu, juge l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas un jugement spécifique pour le peuple juif, mais c'est l'ensemble de l'humanité. Nous, le peuple juif, on se prépare différemment à ce jour qui est le jour de Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle, principalement, on va se retrouver dans des synagogues, on va prier avec une intensité particulière, on va évoquer nos projets vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu nouveaux. On ne va pas se repentir sur les fautes passées.
C'est pour Kippour.
Bravo, Jean. Par contre, là, nous sommes dans une perspective d'avenir. Comment nous allons entrevoir l'avenir de cette nouvelle année qui s'ouvre à nous? Dans quelle mesure on va pouvoir être plus digne de dévoiler dans notre quotidien la présence divine dans ce monde?
Mais c'est des filas de demande, c'est-à-dire qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, cette année, je veux ceci ou cela. Voilà. Ou c'est différemment formulé?
Alors, c'est différemment parce qu'en fait, vous verrez ensemble, nous verrons ensemble, que le contenu de ces prières sont là pour demander à Hachem que sa royauté soit plus manifeste, que tout le monde puisse percevoir le royaume divin.
En fait, on accepte une certaine soumission.
Voilà. On déclare, on intronise à nouveau le roi qui est Akadosh Baruch Hu de façon plus directe, de façon plus évidente, de façon plus engageante de notre part. Ça, c'est tout ce que constituent les prières de Rosh Hashanah. Vous ne verrez à aucun moment dans les prières de Rosh Hashanah un passage sur lequel nous regrettons d'avoir fait nos fautes, nous faisons des vidouim comme Hacham nous bagad nous. Tout ça n'a pas de place dans aucun des offices de Rosh Hashanah.
Mais Rosh Hashanah, c'est vraiment une fête où c'est considéré comme un peu comme Kippour, où on parle de fête, mais pourtant c'est assez banal. Est-ce qu'on peut dire, voilà, je vous dis, Rosh Hashanah, comme chaque année, c'est une fête ou alors c'est quelque chose de différent?
Alors, ça a un caractère de fête parce que, quelque part, on se prépare à ce jugement et Akadosh Baruch Hu le veut favorable pour nous. C'est en ce sens-là qu'il est une fête. Comme nous savons aborder cette nouvelle année, nous savons que tout va dépendre de notre nouvelle disposition en cette nouvelle année. Alors, on a les clés et la manière de faire en sorte que ce jugement, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous accorder dans l'année à venir, sera pour nous favorable.
Alors, Monsieur le Rabbin Koryat, on sait, et on le sait parce qu'on le vit tous les ans, Rosh Hashanah est en général accompagné de certaines, on va dire, minagues, vous nous le direz.
Des simanimes, on appelle ça. Des simanimes.
D'accord,
voilà.
Comme vous voulez. Oui. Mais on va dire de quoi on parle. C'est la différence, on va dire, de célébration au niveau du soir de Rosh Hashanah entre les Ashkenazim et les Sfaradim. On va le dire en clair. Les Ashkenaz font uniquement...
trempe uniquement la pomme dans le miel.
Et nous, les Sfarad, nous faisons un rituel, un seder. Voilà. Pourquoi cette différence?
Voilà. Alors déjà, comprendre qu'est-ce que représente ce qu'on appelle ces simanim, c'est-à-dire cette manière de faire des souhaits.
C'est des minagim.
La manière de le faire dépend de certains types de minagim, de coutumes, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que représente cette coutume? Pourquoi elle a sa place à ce moment-là, le soir de Rosh Hashanah? En fait, il faut comprendre que c'est l'occasion pour nous, à travers des symboles, de faire des prières, d'adresser des prières à Hachem et de lui dire, voilà, Hachem, je prie que tu nous accordes une année douce comme le miel. Et donc, ceux qui trempent la pomme dans le miel, d'accord, c'est cette association qui fait que ça va être doux. La pomme, c'est un petit caractère un petit peu acide. Voilà, même si elle est douce, elle a un petit caractère acide. Quand on la trempe dans le miel, on ne perçoit plus l'acidité. Donc pour nous, et c'est le minhag ashkenaz, c'est la manière de prier, de faire un souhait, de dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, je m'adresse à toi. Je me dispose à être quelqu'un de plus fidèle cette année vis-à-vis de tes commandements et de tes prescriptions. Et je te prie de nous accorder une année douce comme le miel. Donc c'est l'occasion de susciter chez la personne, d'accord,
mais nous
un
aussi
souhait, une demande. Alors nous, on va détailler différemment. C'est-à-dire que c'est le même principe, mais on va faire ça en disant, en prenant la date, « Sheitamu oivenu ». Parce que dans l'étymologie du mot tamar, il y a itamou, que soit anéanti, tous ceux qui nous veulent du mal. D'accord? Ou bien, on va dire, quand on va prendre de la grenade, chez Irbu Zachiotenu, d'accord? Que nos mitzvot, on prie qu'Akadosh Baruch Hu
nous... Pourquoi cette différence par rapport à la région, à l'époque à...
Alors, je pense que c'est dû au fait que dans certaines régions, en Afrique du Nord, ou partout dans... les autres pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique tout court, voilà, il y avait
plus de fruits.
Donc la possibilité d'en avoir plus facilement. Des grenades, des figues, voilà, du grain de sésame, des céleris, vous voyez, tout ce qui peut être de ces types de fruits et des légumes, dont l'étymologie de chacun des noms de ces fruits en hébreu évoque une prière. Voilà. Alors, ce sont des prières que l'on adresse à ce moment-là à Hachem, qu'il nous accorde, on lui demande, voilà, en prenant conscience de la disposition nouvelle que nous devons avoir à Rosh Hashanah, qui nous accorde une année où on pourra accomplir beaucoup de mitzvot.
Alors, il y a deux petites choses que je voudrais parler avec vous avant de passer à la mitzvah principale de Rosh Hashanah, qui est d'écouter le shofar. D'abord, on nous demande de ne pas dormir en général pendant cette fête.
Le premier jour. Voilà.
Le deuxième, on peut faire la sieste.
Le deuxième, on peut faire la sieste.
D'accord. Donc, et pourquoi pas dormir?
Pourquoi pas dormir? Oui. Parce qu'en fait, comme c'est un jour où, comme j'ai dit, tout est accordé par Akadosh Baruch Hu, tout est décidé. Mmh. Voilà, tout ce qu'il nous sera nécessaire pour mener à bien notre mission et nos engagements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu nous sera accordé ce jour-là. Alors, dormir, c'est comme marquer une absence dans le projet. Mmh. Et Hachem dit, mais au moment où je lui accorde
la vie.
Tout ce dans la vie et tout ce dont il aura besoin pour mener à bien tout ce qui est nécessaire cette année, lui, il fait cas d'une absence? Non. Alors on dit, dans le terme des Chachamim, c'est comme s'il endormait son mazal. Le mazal, en fait, c'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu accorde.
Mmh. Donc, oui, alors deuxième événement qui est aussi intéressant, que beaucoup de gens connaissent, c'est le tachlir. On va devant une source d'eau et on fait une fila avec les poches ouvertes. D'abord, est-ce que c'est un minhag ou est-ce que c'est une obligation? Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi là aussi un cours d'eau?
Voilà. Alors, effectivement, on ne va pas rester avec les images d'enfance où quand on va vers un cours d'eau et qu'on secoue nos poches, que l'on va se débarrasser de toutes les mauvaises choses que nous avons fait l'année passée.
Ça
aurait été facile, Jean. D'accord. On n'aurait même plus besoin de retourner à la synagogue.
Exactement.
On se sent déjà avoir tout jeté nos fautes dans ce courant d'eau. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Hachem a demandé à Avraham Avinu d'aller faire Akedat Yitzhak, de sacrifier son fils Yitzhak, alors il s'est mis en route et c'était le jour de Rosh Hashanah. Mmh. Et à un moment, il a dû traverser un fleuve, un cours d'eau, et l'eau est montée jusqu'à pratiquement jusqu'aux narines de Avraham Avinu. Presque, il ne pouvait plus avancer, et il risquait de se noyer. Et il a dit à Hachem, je veux faire ta volonté, mais higi'u ma'im ad nafesh. Les eaux sont là, vont me submerger, je ne pourrai plus rien faire. Et miraculeusement, ces eaux se sont ouvertes, et il a pu aller continuer faire cette mitzvah de Akedat Yitzhak. Nous, lorsqu'on se tient le jour de Rosh Hashanah, devant ce cours d'eau, on évoque le mérite de ce qu'a réalisé Abraham, d'aller jusqu'au bout du bout pour vouloir faire ce qu'a l'ordonnance d'Akadosh Baruch
Hu. Quel rapport avec le fait de jeter ses fautes?
Alors, on ne jette pas ses fautes, on évoque tellement les mérites extraordinaires de Avraham et de Yitzhak qui ont été capables de tout pour aller faire ce qu'Hachem leur avait demandé, que pour nous, ce mérite qu'on évoque à ce moment-là va provoquer chez Akadosh Baruch Hu de la bienveillance, de la rachamim que l'on va mériter pendant le jour de Rosh Hashanah.
C'est une obligation de faire tachlir.
C'est une recommandation, c'est souhaitable de le faire parce que c'est vraiment une prière magnifique qui est dite à ce moment-là et on évoque des mérites extraordinaires et ça...
Mais c'est compliqué en lecture hein, quand même.
C'est c'est compliqué, il y a du Zohar, c'est vrai Jean, je le concède.
En tout cas, vous pouvez le faire évidemment, on le fait en général avec sa communauté.
Tout à fait, chaque communauté se dirige vers un point d'eau comptable.
Ouais, tout le monde connaît d'ailleurs.
Voilà, tout le monde connaît
c'est
l'adresse.
C'est le même point d'eau.
Exactement.
On va parler, monsieur Rabbi Koyat, de la mitzvah de cette fête de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Et quand je vous ai posé la question il y a quelques années, à quoi sert le shofar, vous m'avez répondu, monsieur le rabbin, ça sert à réveiller les gens. Est-ce qu'il faut 100 sonneries pour réveiller les gens?
Bravo Jean, en tout cas, je suis admirablement surpris que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit il y a déjà quelques années. Voilà.
Comme
bravo.
Quoi, je vous écoute quand vous parlez.
Tout à fait. Voilà. Alors, il est vrai que la mitzvah du jour de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du shofar. C'est marqué explicitement dans le verset. Yom teruah yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie du shofar.
Il y a vraiment ça comme mitzvah.
C'est la mitzvah centrale.
Si on ne la fait pas, on est...
Alors, si on ne la fait pas, on n'éveille pas, on va dire, la bienveillance nécessaire auprès d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, en fait, ce qui va éveiller, et c'est là où je reviens à ce que je vous ai dit il y a quelques années, ce qui va éveiller la bienveillance chez Hachem, c'est cette capacité de pouvoir faire une introspection dans son intérieur, dans son intériorité, et se dire, voilà, finalement, j'évoque quand même le souhait, le désir d'améliorer quelque chose chez moi, de faire encore plus que ce que j'ai fait l'année dernière. Alors, pour me rapprocher d'Hachem.
Le truc, c'est le chauffard. Moi, je...
Alors, je vais vous dire tout ça, Jean.
Prenons un exemple avec Kippour.
Oui.
À Kippour aussi, on fait des brachot et on essaie d'être mieux. Et pourtant, on ne sonne
pas, pas de chauffard. Très bien, Jean.
Enfin, si, une fois à la fin pour signaler la fin du jeûne. Oui.
Alors, en fait, regarde, Jean, le chauffard lui-même, dans les sons tels qu'on les entend, nous dit le texte de la Gemara que ça évoque un pleur. Ouais. C'est comme quelqu'un qui pleure. Après, il va être plus haletant. Et encore plus. Voilà, et après, il pleure. Mais c'est quoi ce pleur? Ça évoque quoi ce pleur? Alors, on veut, à un moment où Hachem, il est là à accorder, comme ce qu'on a dit depuis le début, ce qui sera nécessaire pour la personne et la manière de mener à bien sa mission. Alors Hachem lui dit, regarde, moi je veux te donner des choses, mais toi tu veux faire quoi avec ces choses que je te donne? Et là, il va s'en retourner vers son intériorité, et il va comprendre que, voilà, il n'a peut-être pas été autant à la hauteur qu'il l'aurait souhaité l'année passée. C'est alors ce pleur, c'est ce pleur intérieur. Mmh. Et ce pleur intérieur...
Mais pourquoi 100 fois alors?
Alors attendez, ouais. Ce pleur intérieur montre... Il veut faire quelque chose de mieux. Il veut se rapprocher d'Hachem. Il veut être plus fidèle dans la manière d'accomplir la volonté d'Hachem et ses mitzvot. Alors je lui donne encore plus pour pouvoir mieux le réaliser. Ça, c'est la base de ce que représente le son du chauffard.
D'accord.
Maintenant, nous, et c'est vrai, Jean, que dans la tradition, ça, c'est déjà pas écrit dans la Torah qu'il faut sans son. Non, il n'est pas dit dans la Torah qu'il faut écouter sans son. Non. Il faut écouter la première série, par exemple, que l'on fait après la bénédiction, qui est celle de l'ishmoa kol shofar, d'écouter les sons du shofar, parce que la mitzvah, eh bien, d'écouter les sons du shofar. C'est pas de sonner, c'est pas de faire l'action, de souffler dans une corne. C'est ce qui s'en dégage. C'est ce pleur, ces sons qui doivent pénétrer notre conscience. C'est ça, les sons du shofar et la mitzvah.
Alors, on est à la radio, on va juste faire juste une parenthèse, on le dit et peut-être que les gens le savent pas, mais évidemment, vous allez me confirmer, monsieur le rabbin Koryat, à la radio ou bien sur internet ou sur Zoom, c'est pas considéré comme une mission acquise.
Ah non, désolé, non, il va falloir se déplacer à la synagogue, ouais. Et écouter de quelqu'un qui sonnera dans un chauffard, ouais, les sons.
Même les Zooms et tout ça.
Ah non, ça marchera pas, d'accord. Non, désolé.
Non, ne soyez pas désolé. En tout cas, sachez qu'à Strasbourg, vous pouvez appeler le rabbin des rabbinines qui trouveront des gens
tout à fait.
Qui viendront vers
toute personne
vous.
Qui ne pourra pas venir à la synagogue pour écouter les sons du chauffard. Voilà, les personnes peuvent contacter le rabbinat. Il y aura toujours un rabbin qui se déplacera pour sonner chez vous, si vous ne pouvez pas venir, du chauffard.
Alors, sur le chauffard, vous le disiez, mais je voulais vous poser une question. Sur les différents sons, terroirs, etc. Ça correspond à quelque chose de... Vous allez parler des pleurs, mais est-ce qu'il y a une autre explication pourquoi ces sons qui sont très codés, finalement, parce que le chauffard, quand on le sonne, c'est des mots, des phrases, et tout est codifié à l'avance. Ça a une indication particulière, ces sons-là.
Alors,
comment on les a choisis, pas ça?
Voilà, alors, il y a le son, si vous voulez, de... Le son long et continu, ce qu'on appelle la tekiato, voilà. Ça se sonne, de manière générale, lorsqu'on annonce la venue de quelqu'un d'important. Même autour de nous, lorsque on veut annoncer la venue d'un roi, ou, voilà, on sonne, descend tout.
Et ça, c'est la venue qui décrète le roi.
Voilà.
D'accord.
Et là, ce son lui-même, lorsqu'il appelle à cette conscience de la royauté divine, d'accord, pour qui on sonne d'un son continu, tout de suite nous interpelle sur notre position par rapport à cette manière d'introniser le roi. L'avons-nous intronisé toute l'année? Et là, on commence les pleurs intérieurs. Tout, et encore plus haletant, tout. Pour qu'après, on l'intronise de façon meilleure. Tout, à la fin. Vous voyez ? Ça, c'est le...
Alors, j'ai compris le début, mais pas la fin.
Oui.
Pourquoi il y a une sorte de saccade...
Il y a un appel, d'accord, ouais. À l'intronisation d'Akadosh Baruch Hu, voilà. Et puis, comme ça doit pénétrer notre conscience, et on s'est dit, mais on intronise le roi, on annonce le roi, mais est-ce que j'ai eu conscience de sa présence toute l'année, véritablement ? Et là, ça déclenche en nous ce pleur intérieur. Tout, voilà.
D'accord.
Et encore plus haletant. Tout. Et après avoir pris de nouvelles dispositions, il y a le son encore qui est prolongé long, parce que c'est la nouvelle manière d'introniser le roi qui est la bonne, celle-là. Tout. Et là, on a ces rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, toutes ces séquences traduisent ce qu'évoque au départ l'appel de l'intronisation d'Hachem, notre ressenti par rapport à cela, et ensuite la manière renouvelée de pouvoir introniser Hachem.
Alors, il y a quand même une question que je me pose souvent à Kippour ou bien à Rosh Hashanah comme cette année, c'est quelle est la posture qu'on doit avoir en rentrant, ce sera lundi soir à la synagogue, je vais me faire juger, il y a une posture particulière ?
Alors, il y a une posture, mais pas de tristesse. Il doit y avoir une posture de solennité, c'est un grand moment, c'est un moment important, c'est un moment où chacun doit prendre conscience que finalement, on va lui accorder tout en ce jour-là. Donc, mais on a cette foi en Akadosh Baruch Hu, on a cette croyance, on a cette conviction que Akadosh Baruch Hu va nous accorder le meilleur. Donc d'un côté, c'est solennel, d'un côté, on est rassuré, si vous voulez, parce que Hachem est bon et sa volonté est de nous accorder le meilleur.
Je peux vous poser une question personnelle.
Oui,
Jean. L'an dernier...
À l'antenne, vous me posez des questions personnelles.
Oui, d'accord. Vous allez voir, c'est dans... L'an dernier, vous étiez, on l'a dit, dans une situation particulière.
Délicate, oui.
Ça, c'est dit à Rosh Hashanah. Comment, quand on y arrive, on peut se dire, tiens, voilà, il nous a décidé depuis quelques mois et c'est arrivé...
Voilà, Dieu merci, il a été décidé la situation délicate, mais surtout, ce que je retiens à moi, c'est qu'il a été décidé aussi que je m'en sorte.
Ah, vous voyez, ça aussi, c'est décidé avant.
Ah ben oui. D'accord. Donc c'est surtout ça que je retiens, moi.
D'accord.
Baruch Hashem, j'ai bénéficié de sa bienveillance intense, et Dieu merci, je suis avec vous, Jean.
Et tout est décidé. À Rosh Hashanah.
Exactement.
D'accord. Il y a aussi une question que je voulais poser concernant Rambam, puisque vous êtes le rabbin de Rambam. Comment ça se passe à Rambam Rosh Hashanah ?
Écoutez, Jean, ça se passe
avec le Covid, évidemment.
Évidemment. Alors, déjà, vous dire que la prière se passe magnifiquement bien, puisque on a un chazan magnifique, et le Kaal, le Tzibour, l'ensemble de la communauté participe. Chez Noir Rambam, c'est très chanté, beaucoup de gens participent, il y a beaucoup de monde.
On mange très tard, alors.
On mange plutôt tard, mais ça reste un moment extrêmement agréable, très chanté, très intense aussi, dans la ferveur et tout. Ceci dit, Jean, pour vous rassurer, 95% de notre cal, de notre communauté, est vacciné des deux doses.
D'accord.
Donc tout le monde a le pass sanitaire.
Vous demandez à l'entrée ?
Alors, vous savez que cette année, les... réservation des places se font en ligne aussi.
Oui.
Et donc, il y a à cocher passe sanitaire pour avoir effectivement accès à la synagogue. Ceci dit, on a quand même le masque. Tout le monde porte le masque obligatoire. Moi-même, qui officie, et le seul moment où j'enlève, c'est pour sonner du chauffard, genre, parce que je ne pourrais pas sonner avec le masque. Voilà. Mais autrement...
C'est difficile de sonner du chauffard, en fait.
Oui, c'est franchement difficile. Il faut avoir de la technique, il faut avoir du souffle. Pour l'expérience, c'est pas évident.
Ah, il y a une technique.
Ah oui, tout à fait. Pas tout le monde ne peut sonner dans un chauffard. Il faut voir, d'après la disposition de sa bouche, de ses lèvres, etc., de la forme de l'ouverture du chauffard, beaucoup de détails pour permettre des sons clairs.
D'accord. Donc, Rambam, tout va bien. Il faut évidemment être vacciné. C'est mieux.
Voilà, c'est mieux. Celui qui n'est pas vacciné a quand même accès. Hein.
Au niveau du rite à Rambam, c'est plutôt marocain.
Voilà, alors c'est 90% marocain, Jean. On a quand même bien 10% algérien, parce qu'on a quand même tout
vous,
un pan
vous êtes ouvert.
Non négligeable, bien sûr, d'Algériens dans notre synagogue, qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup.
Moi
et
aussi.
Donc, on fait plaisir, tout à fait.
Alors, on rappelle quand même les horaires et les jours de ce Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce sera donc lundi soir à Allumage entre 18h 39 et 19h48. Et la fin de la fête, c'est mercredi soir à partir de 20h41. Voilà, on a tout dit. Merci.
Avec plaisir. Alors, Chag Sameach, je me permets juste, Jean, d'adresser à toute la communauté Shana Tova Umvorechet, qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde beaucoup de santé, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie autour de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Amen ve amen. Shana Tova.
Shana Tova.